Vous êtes sur RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Deuxième invité d'RTL Soir, un grand chef. Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Évidemment, on va commenter avec vous la situation sanitaire et la fermeture des restaurants ou des cafés pour encore au minimum 2 semaines. Hein. Et on va pouvoir le faire à travers le livre que vous publiez, « Celui qui ne combat pas a déjà perdu » chez Flammarion. Alors c'est une biographie, hein, en somme, grâce à laquelle on comprend mieux votre parcours, vos combats, et pour résumer, votre état d'esprit dans ce contexte si difficile, vous avez une devise, solitaire et solidaire. Alors solidaire, j'allais dire on comprend facilement, ouais. Mais pourquoi solitaire ?
Solitaire, c'est comme je l'écris dans le livre, je crois que c'est ma famille qui m'a appris à ne pas chercher de bouc émissaire, de regarder la vie en face, les faits en face, et de trouver des solutions. Et je pense que ça construit une certaine verticalité qui fait que vous assumez qui vous êtes, vous assumez la rectitude de vos choix, et qu'à un moment donné, vous dites, la vie c'est à angle droit, il faut être solitaire pour assumer les choses, mais être solidaire pour des fois aller plus loin avec un groupe.
Alors ça veut dire aussi accepter la situation sanitaire telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de ceux qui non seulement ne comprennent pas, mais refusent l'idée de fermer les restaurants ?
Non, je suis plutôt de ceux qui se disent, bon, on a un souci majeur, on va faire une méthode opérationnelle tactique, c'est quoi le sujet ? C'est un virus, on ne sait pas faire. Donc, je pense que les décisions qui sont prises sont probablement peut-être les bonnes décisions, mais je n'ai pas l'outrecuidance de dire que j'aurai la solution. Mais ce qui m'inquiète, c'est de dire, et nous sommes des petits, nous sommes des artisans, petites entreprises, c'est ce cumul des dettes. Et on sait très bien que dans nos métiers, cumuler des dettes, quand on est artisan, PME, eh bien on sait ce que ça veut dire, et on sait qu'il va falloir une croissance énorme dans 24 mois ou 36 mois pour pouvoir éponger ces dettes. Qui aurons-nous devant nous dans 5, 10 ans pour dire, voilà, on a encore des dettes des années Covid, on nous avait promis que, mais là, on n'a plus personne. Donc, je pense que l'anxiété naît aussi de savoir si dans 24 mois, les promesses seront toujours tenues, or qu'on aura accumulé une dette qui sera abyssale.
Alors, effectivement, il y a cette angoisse, mais le restaurateur qui est fermé, qui va le rester encore 15 jours, qui, malgré les aides, accumule des dettes, comme vous dites, il veut juste ouvrir, il veut juste faire son métier, le métier qu'il aime, qui est sa passion, il veut accueillir des clients. Ça, il y a une situation qui l'en empêche.
C'est la situation sanitaire et je pense que les restaurateurs, tous ceux qui sont liés au monde de l'alimentation, savent ce que c'est qu'un virus et sa dangerosité. Et ils veulent comprendre, c'est-à-dire qu'on est fermé, est-ce qu'on est en responsabilité, combien de temps, comment ça va durer et comment on va sortir du confinement. C'est-à-dire qu'on a une première expérience, on a fait le dos rond pendant ce premier confinement, on en est sorti et on s'est dit, bon, non, on n'y reviendra pas.
On n'y reviendra pas,
et
voilà.
Et on y revient, et est-ce qu'on saura sortir de ce deuxième confinement dans de bonnes conditions ?
Alors vous dites, ne cédons pas à l'hypnose de la Covid, utilisons ce moment pour nous réorganiser. Et vous, plus loin, vous dites, c'est l'occasion de repenser notre modèle alimentaire et notre modèle de restauration.
C'est ce que je crois. Je pense que quand on a un moment de tempête comme ça, il faut faire le cap en permanence. Puis à un moment donné, il y a un petit moment d'accalmie entre ces deux confinements. On s'est dit, il faut retracer le cap. C'est quoi demain ? C'est quoi la gastronomie de demain ? Comment on pourrait être plus proche du monde agricole ? Ce qu'on a commencé à faire dans le premier confinement, à se rapprocher des GAEC agricoles pour travailler en direct avec elles.
Vous dites court-circuiter les circuits de distribution.
Exactement. À un moment donné, je pense que le monde agricole doit être plus près du consommateur, du mangeur, pas du consommateur.
Moi, vous dites les mangeurs.
Moi, je dis les mangeurs parce que le consommateur va s'intéresser au prix et on va encore lui laisser croire que la théorie du low cost est la meilleure. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut réduire les coûts logistiques dans certains domaines et puis être plus près du monde agricole pour aider à cette transition qui est déjà entamée dans le monde agricole pour qu'on soit plus près de ce monde agricole pour avoir des produits qui soient acceptable à payer et agréable à manger. C'est ce que je crois aujourd'hui, de remettre ça dans l'axe pour qu'on ait moins de circuits intermédiaires.
Et éviter du coup certains, j'allais dire, non-sens. Vous prenez l'exemple du prix d'un yaourt.
Ben, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si vous êtes agriculteur, on vous achète votre yaourt 34 centimes, on vous dit, regardez comme on est vertueux, on vous laisse venir dans nos supermarchés, mais en même temps, vous êtes entouré de 300 yaourts qui deviennent de l'industrie agroalimentaire, et on ne vous voit plus, et on vous dit, non mais ceux-là sont quand même moins chers. C'est pas la question du prix, c'est la valeur qu'il y a dans le produit.
Alors, c'est votre parcours hein, en banlieue de Champigny, en banlieue, en échec scolaire, à traîner dans des bandes, à l'époque on disait les petits voyous. C'est ce chemin tortueux, presque miraculeux, qui vous a amené au sommet de la gastronomie, qui vous permet aujourd'hui d'avoir cet optimisme, je pense. Et vous dites, parce que ça aussi, ça résonne, seule la mort est irréversible. Ouais. Et donc, voilà, dans les circonstances actuelles, je pense que vous pensez aussi, par exemple, au restaurateur fermé qui doit tous les soirs se dire comment il va pouvoir s'en sortir. Vous lui dites, seule la mort est irréversible.
Oui, c'est une phrase que disait tout le temps mon grand-père, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs. Il me disait, non, mais c'est pas grave, tes petits ennuis scolaires, là, seule la mort est irréversible. Je pense qu'il tenait ça du parcours qu'il avait eu en 1914. Et il nous disait ça tout le temps. Et c'est resté ancré en moi. Et effectivement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est la fameuse phrase qu'on dit tout le temps. Mais je crois vraiment à ça. Et je pense qu'il faut regarder un petit peu plus loin. Et essayer de se battre, justement, tant qu'on est vivant. Et quand je vois, évidemment, mes confrères, dont je fais partie hein, de cette branche fermée, on n'est pas mort. Et je suis certain, il y a une telle attractivité pour la restauration française et pour la qualité de la restauration française, qu'à la réouverture, d'ailleurs on l'a vu à la première réouverture, immédiatement, les clients sont venus dans nos maisons parce qu'ils nous font confiance sur notre qualité à les faire vibrer autour d'un bon plat.
Mais il va falloir changer des choses, puisque on ne reviendra pas totalement dans le monde d'avant, de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue d'un restaurateur.
Je ne crois pas que ce soit souhaitable de revenir dans le monde d'avant. Bien que je ne crois pas à un monde différent après. Mais je pense qu'on devrait essayer de travailler sur une consommation en conscience. Ce n'est pas comment je mange, mais pourquoi je mange. Pourquoi j'achète ce produit. Et c'est de définir ce qu'est un bon produit. Une échelle de valeur assez simple sur ce qu'est un bon produit. Son impact social et son impact environnemental. Et je crois que ce sont des combats à mener par les restaurateurs, par l'ensemble de cette fraternité d'hommes et de femmes qui font le monde de la gastronomie, de se dire, non c'est fini, ce ne sera plus comme avant. On va retravailler dans les circuits courts, mais sérieusement, et on va les imposer.
Parce qu'en attendant, et on l'a bien vu lors du premier confinement et sans doute avec le deuxième confinement, j'allais dire les grands gagnants dans l'histoire, aujourd'hui, c'est évidemment l'Internet, mais c'est aussi la grande distribution.
Oui, les grands gagnants, c'est effectivement tout ce qui est Internet, bien entendu, tout ce qui est vente en ligne. La grande distribution tire son épingle du jeu, elle rend des services et pourquoi pas, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit enterré vivant et qu'on accepte, nous aussi, de relever les manches et de se dire, il y a d'autres choses à proposer pour une alimentation durable et pour une gastronomie durable.
En tout cas, tout cela est à lire dans cette biographie. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Je dis tout cela, je suis passé sur bien des aspects hein, de ce livre, mais j'ai quand même une autre question, parce que vous ne l'avez peut-être pas lu, mais M, le magazine Week-end du Monde, fait sa une sur le MeToo des chefs. Des chefs au féminin, hein, avec des témoignages sur le sexisme, sur le harcèlement et sur les agressions sexuelles en cuisine. Est-ce que ça vous étonne, ce genre de d'abord ces témoignages qui sont assez troublants, hein, je vous engage à les lire.
Bien sûr, je vais lire ça avec attention, mais c'est vrai que là, bien souvent, le monde de la gastronomie est mis en lumière parce qu'il y a une aura autour de ce monde de la gastronomie. Mais je suis convaincu que certes, il y a des agressions, et l'agression, rien que l'agression physique d'une personne est détestable, déplorable, condamnable. Je ne veux pas me défausser, mais je suis sûr que c'est condamnable dans le monde de l'entreprise en général.
Il n'y a pas plus de machisme. C'est pas un monde très masculin, le milieu des cuisines.
Je ne crois pas. Ce qui est,
et parfois, ça marche un peu à la baguette du chef.
Non, je voudrais juste peut-être reprendre la phrase d'Albert Camus qui disait la bêtise insiste toujours. Et il n'y a rien de pire qu'un petit chef qui se prend pour un élu du divin et qui aurait le droit de tout. Et ça, c'est déplorable, condamnable.
Et ce qui d'ailleurs expliquait beaucoup dans ces témoignages, c'est que ce ne sont pas en général les grands chefs qui sont mis en cause, mais plutôt ceux qui prennent la place quand le grand chef.
Le troisième cercle, voilà, c'est ça. Non, bien sûr, c'est déplorable, condamnable, et ça n'a pas lieu d'être.
Vous l'avez ressenti, vécu.
L'agression, c'est pas trop le truc que j'ai vécu.
C'est non, pas bien un problème. Sûr.
Mais non, j'ai vécu comme tout à chacun des tensions excessives dans des équipes de cuisine, des propos déplacés, des échauffourées. J'ai été témoin de ça, mais physiquement, évidemment, ma génération, nous n'avions quasiment pas de femmes dans nos brigades.
C'est ça qui a changé.
Mais ça a changé, et c'est une bonne chose, ça c'est à souligner, mais que ce soit un homme ou une femme, l'agression est condamnable, et c'est un délit.
Thierry Marc, celui qui ne combat pas a déjà perdu, donc vous êtes au combat, au poste de combat.
Tant que je suis vivant, oui.
Merci beaucoup. Celui qui ne combat pas a déjà perdu, c'est sorti chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Thierry Marc. Dans un instant, on va faire un bilan de la semaine, vu par Éric Brunet. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir.